Alexandre Dumas, l'orfèvre du roi. Chapitre 1er, la rue et l'atelier. C'était le 10 juillet de l'an de grâce 1540, à 4 heures de relevée, à Paris, dans l'enceinte de l'université, à l'entrée de l'église des Grands Augustins, près du Bénitier, auprès de la porte. Un grand et beau jeune homme au teint brun, aux longs cheveux et aux grands yeux noirs, vêtu avec une simplicité pleine d'élégance et portant pour toute arme un petit poignard aux manches merveilleusement ciselées, était là, debout, et, par pieuse humilité sans doute, n'avait pas bougé de cette place pendant tout le temps qu'avaient duré les vêpres. Le front courbé, et dans l'attitude d'une dévote contemplation, il murmurait tout bas je ne sais quelle parole, ses prières assurément, car il parlait si bas qu'il n'y avait que lui et Dieu qui pouvaient savoir ce qu'il disait. Cependant, au bruit de chaises qui annonce la fin de l'office, l'adolescent se retira à l'écart et regarda passer la foule avec un intérêt évident. Son regard s'anima lorsqu'il vit s'approcher une jeune fille vêtue de blanc qu'accompagnait une duègne, mais une duègne assez jeune, ma foi. Quand ces deux dames s'approchèrent du bénitier, notre jeune homme s'avança et prit de l'eau bénite qu'il leur présenta galamment. À son grand désappointement, ce fut la duègne qui, avec une gracieuse révérence, toucha les doigts du jeune homme et offrit elle-même à sa compagne cette eau bénite de seconde main, laquelle compagne tint constamment les yeux baissés, preuve qu'elle savait que le jeune homme était là. Mais le premier moment de dépit passé, notre inconnu se hâta de descendre les marches de l'église et, voyant qu'après avoir abaissé son voile et donné le bras à sa suivante, la jolie distraite avait pris à droite, il se hâta de prendre à droite, en remarquant d'ailleurs que c'était précisément son chemin. La jeune fille suivait le quai jusqu'au pont Saint-Michel et prit le pont Saint-Michel. C'était encore le chemin de notre inconnu. Elle traversa ensuite la rue de la Barillerie, le pont au change, or, comme c'était toujours le chemin de notre inconnu la suivit comme son ombre. L'ombre de toute jolie fille, c'est un amoureux. Mais hélas, à la hauteur du Grand Châtelet, le bel astre dont notre inconnu s'était fait le satellite s'éclipsa brusquement. Le guichet de la prison royale s'ouvrit, comme de lui-même, aussitôt que la duègne y eut frappé, et se referma aussitôt. Le jeune homme demeura interdit un instant, mais comme c'était un garçon fort décidé, quand il n'y avait plus là une jolie fille pour lui ôter sa résolution, il eut bientôt pris son parti. Un sergent d'armes, la pique sur l'épaule, se promenait gravement devant la porte du Châtelet. Notre jeune inconnu fit comme cette digne sentinelle et, après s'être éloigné à quelque distance pour ne pas être remarqué, mais non pas assez loin pour perdre la porte de vue, il commença héroïquement sa faction amoureuse. Si le lecteur a monté une faction quelconque dans sa vie, il a dû remarquer qu'un des moyens les plus sûrs d'abréger cet exercice est de se parler à soi-même. Or, sans doute, notre jeune homme était habitué aux factions, car à peine avait-il commencé la sienne, qu'il s'adressa le monologue suivant. « Ce n'est point là, assurément, qu'elle demeure. Ce matin, après la messe et ces deux derniers dimanches, où je n'ai osé la suivre que des yeux, niais que j'étais, elle ne prenait pas le quai à droite, mais à gauche, et du côté de la porte de Nesle et du pré au clair. Que diable vient-elle faire au Châtelet? Voyons... visiter un prisonnier peut-être, son frère probablement. Ah, pauvre jeune fille, elle doit bien souffrir alors, car sans doute elle est aussi bonne qu'elle est belle. » Une fois lancé dans une pareille voie, on comprend combien l'esprit d'un amoureux fait son chemin sans s'arrêter. Aussi notre jeune homme fut-il tout étonné d'entendre sonner 4 heures et de voir relever la sentinelle. Le nouveau sergent commença sa faction et le jeune homme reprit la sienne. Le moyen lui avait trop bien réussi pour ne pas continuer d'en faire usage aussi, reprit-il sur un texte non moins fécond que le premier. Qu'elle est belle, quelle grâce dans ses gestes, quelle pudeur dans ses mouvements, quelle pureté dans ses lignes. Il n'y a dans le monde entier que le grand Léonard de Vinci ou le divin Raphaël qui eussent été dignes de reproduire l'image de cette blanche et chaste créature. Encore eût-il fallu que ce fût au plus beau de leur talent. Oh, que ne suis-je peintre, mon Dieu, au lieu d'être ciseleur, statuaire et mailleur, orfèvre. On releva la seconde sentinelle. 6 heures. C'est étrange comme le temps passe vite, murmura le jeune homme, et s'il passe ainsi à l'attendre, combien doit-il donc passer près d'elle? Oh, près d'elle, il n'y a plus de temps, c'est le paradis. Si j'étais près d'elle, je la regarderais, et les heures, les jours, les mois, la vie passerait ainsi. Quelle heureuse vie serait celle-là, mon Dieu! Et le jeune homme resta en extase, car devant ses yeux d'artiste, sa maîtresse, quoique absente, passa en réalité. On releva la troisième sentinelle. 8 heures sonnaient à toutes les paroisses et l'ombre commençait à descendre. Du reste, la patience du jeune artiste, car maintenant nous connaissons sa profession, fut enfin récompensée quand il vit la porte du Châtelet se rouvrir, pour la 20e fois, mais cette fois pour donner passage à celle qui l'attendait. La même matrone était toujours à ses côtés, et de plus, 2 hoquetons aux armes de la prévôté l'escortaient à 10 pas. On reprit le chemin qu'on avait fait 3 heures auparavant, à savoir le pont au Change, la rue de la Barillerie, le pont Saint-Michel et les quais. Seulement, on dépassa les Augustins et, à 300 pas de là, dans une encoignure, on s'arrêta devant une énorme porte à côté de laquelle se trouvait une autre petite porte de service. La duègne y frappa, le portier vint ouvrir, les 2 hoquetons, après un profond salut, reprirent la route du Châtelet, et notre artiste se retrouva une seconde fois immobile devant une porte close. Il y serait probablement resté jusqu'au lendemain, car il avait commencé la 4e série de ses rêves, mais le hasard voulut qu'un passant, quelque peu aviné, vint donner de la tête contre lui. « Hé, l'ami, dit le passant, sans indiscrétion, êtes-vous un homme ou une borne ?»« Excusez, reprit le jeune homme distrait, mais je suis étranger à la bonne ville de Paris et... » « Ah, oh, c'est autre chose, alors le français est hospitalier, et c'est moi qui vous demande pardon. Vous êtes étranger, ben, c'est bien. Puisque vous m'avez dit qui vous étiez, il est juste que je vous dise qui je suis. Je suis écolier, et je m'appelle... » « Pardon, interrompit le jeune artiste, mais avant de savoir qui vous êtes, je voudrais bien savoir où je suis. » Porte de Nesle, mon cher ami, voilà l'hôtel de Nesle, dit l'écolier en montrant des yeux la grande porte que l'étranger n'avait pas quittée du regard. Savez-vous à qui il appartient l'hôtel de Nesle? Demanda le jeune inconnu. Tiens, est-ce qu'on ne sait pas son université? L'hôtel de Nesle, jeune homme, appartient au roi, notre sire, et est présentement aux mains du prévôt de Paris, Robert d'Estourville. « Comment? C'est là que demeure le prévôt de Paris ? » s'écria l'étranger. « Je ne vous ai en rien dit que le prévôt de Paris demeura là, mon fils, » reprit l'écolier. « Le prévôt de Paris demeure au Grand Châtelet. » « Ah, au Grand Châtelet, alors c'est cela. Mais comment se fait-il que le prévôt demeure au Grand Châtelet et que le roi lui laisse l'hôtel de Nesle ? » Ah, voilà l'histoire. Le roi, voyez-vous, avait jadis donné l'hôtel de Nesle à notre bailli, homme extrêmement vénérable, mais qui gardait les privilèges et jugeait les procès de l'université de la façon la plus paternelle. Superbe fonction. Par malheur, cet excellent bailli était si juste pour nous, qu'on a aboli sa charge depuis 2 ans, sous prétexte qu'il dormait aux audiences, comme si bailli ne dérivait pas de bailler. Sa charge donc étant supprimée, on a rendu au prévôt de Paris le soin de protéger l'université. Beau protecteur, ma foi, si nous ne savons pas nous protéger nous-mêmes. Or, mon dit prévôt, tu me suis, mon enfant, mon dit prévôt, qui est fort rapace, a jugé que, puisqu'il succédait à l'office du bailli, il devenait héritier en même temps de ses propriétés, et il a tout doucement pris possession du grand et du petit Nesle avec la protection de madame d'Étampes. Et cependant, d'après ce que vous me dites, il ne l'occupe pas? Pas le moins du monde, le ladre, et pourtant je crois qu'il s'y loge une fille ou nièce à lui, le vieux Cassandre, une belle enfant qu'on appelle Colombe ou Colombine, je ne sais plus bien, et qu'il tient enfermée dans un coin du petit Nel. Ah, vraiment, fit l'artiste qui respirait à peine, car pour la première fois il entendait prononcer le nom de sa maîtresse. Cette usurpation me paraît un abus criant. Comment cet immense hôtel pour loger une jeune fille seule avec une duègne? Et d'où viens-tu donc, ô étranger, pour ne pas savoir que c'est un abus tout naturel que nous autres, pauvres clercs, habitions assis un méchant taudis pendant qu'un grand seigneur abandonne aux orties cette immense propriété avec des jardins, des préaux, son jeu de paume? Il y a un jeu de paume. Magnifique, mon fils, magnifique. Mais, en définitive, c'est la propriété du roi François Ier, cet hôtel de Nel.
Sans doute, mais qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse de sa propriété, le roi François Ier?
Qu'il la donne aux autres, puisque le prévôt ne l'habite pas.
Eh bien, fais-la lui demander pour toi, alors.
Pourquoi pas? Aimez-vous le jeu de paume, vous?
J'en raffole.
Je vous invite alors à venir faire une partie avec moi, dimanche prochain.
Où cela?
Dans l'hôtel de Nel.
Top, monseigneur le grand maître des châteaux royers. Ah ça, il est bon que tu saches mon nom au moins. Je m'appelle...
Mais comme l'étranger savait ce qu'il voulait savoir, et que le reste l'inquiétait probablement fort peu, il n'entendit pas un mot de l'histoire de son ami, qui lui raconta pourtant en détail comme quoi il s'appelait Jacques Aubry, était écrivain en l'université, et pour le moment il revenait du pré au clair, où il avait eu un rendez-vous avec la femme de son tailleur. Puis ils se donnèrent rendez-vous pour le dimanche suivant, à midi, à la porte de Nel, et se séparèrent, l'un chantant, l'autre rêvant. Et celui qui rêvait avait matière à rêver, car il avait plus appris dans cette journée que pendant les 3 semaines précédentes. Il avait appris que celle qu'il aimait habitait le petit Nel, qu'elle était la fille du prévôt de Paris, messire Robert d'Estourville, et qu'elle s'appelait Colombine. Comme on le voit, il n'avait pas perdu sa journée. Et tout en rêvant, il s'enfonça dans la rue Saint-Martin et s'arrêta devant une maison de belle apparence, au-dessus de la porte de laquelle étaient sculptées les armes du cardinal de Ferrare. Il frappa 3 coups. « Qui est là ?» demanda à l'intérieur, et après quelques secondes d'attente, une voix fraîche, jeune et sonore.
« Moi, Dame Catherine, » répondit l'inconnu.
« Qui vous ?»«
Ascanio. »«
Ah, enfin !»
La porte s'ouvrit et Ascanio entra. Une jolie fille de 18 à 20 ans, un peu brune, un peu petite, un peu vive, mais admirablement bien faite, reçut le vagabond avec 1000 transports de joie.
« Ah, le voilà, le déserteur, le voilà » s'écria-t-elle, et elle courut, ou plutôt elle bondit devant lui pour l'annoncer, éteignant la lampe qu'elle portait et laissant ouverte la porte de la rue, qu'Ascanio, beaucoup moins écervelé qu'elle, prit le soin de refermer.
Le jeune homme, malgré l'obscurité où le laissait la précipitation de Dame Catherine, traversa d'un pas sûr une assez vaste cour, où une bordure d'herbe encadrait chaque pavé et que dominaient de leur masse sombre de grands bâtiments d'aspect sévère. C'était bien au reste la demeure austère et humide d'un cardinal, quoique depuis longtemps son maître ne l'habitât plus. Ascanio franchit lestement un perron aux marches vertes de mousse et entra dans une immense salle, la seule de la maison qui fût éclairée, une espèce de réfectoire monacal, triste, noir et nu d'ordinaire, mais depuis 2 mois brillant, vivant, chantant. Depuis 2 mois, en effet, dans cette froide et colossale cellule, se remuait, travaillait, riait, tout un monde d'activité et de bonne humeur. Depuis 2 mois, 10 établis, 2 enclumes et au fond une forge improvisée avaient rapetissé l'énorme chambre. Des dessins, des modèles, des planches chargées de pinces, de marteaux et de limes, des faisceaux d'épées aux poignets ciselés merveilleusement et aux lames découpées à jour, des trophées de casques, de cuirasses et de boucliers damasquinés en or sur lesquels ressortaient en bosse les amours des dieux et des déesses
comme si l'on eût voulu faire oublier par les sujets qu'ils représentaient l'usage auquel ils étaient destinés, avait habillé les murailles grisâtres. Le soleil avait pu largement entrer par les fenêtres toutes grandes ouvertes, et l'air s'était égayé aux chansons des travailleurs alertes et bons vivants. Le réfectoire d'un cardinal était devenu l'atelier d'un orfèvre. Quand Ascanio entra, quatre personnes se trouvaient dans l'atelier. Ces quatre personnes étaient une vieille servante qui desservait, Catherine qui rallumait la lampe, un jeune homme qui dessinait dans un coin et qui attendait cette lampe que Catherine avait enlevée de devant lui pour continuer à dessiner, et le maître debout, les bras croisés et appuyé contre la forge. C'est ce dernier qu'eut aperçu tout d'abord quiconque fut entré dans l'atelier. En effet, je ne sais quelle vie et quelle puissance émanaient de ce personnage étrange et attiraient l'attention même de ceux qui eussent voulu la lui refuser. C'était un homme maigre, grand, vigoureux, de 40 ans à peu près, mais il faudrait le ciseau de Michel-Ange ou le pinceau de Ribera pour retracer ce profil fin et énergique, et pour peindre ce teint brun et animé, pour rendre enfin tout cet air hardi et comme royal. Son front élevé, son bragé de sourcils, prompt à se froncer. Son regard, net, franc et incisif, jetait parfois des éclairs sublimes. Son sourire, plein de bonté et de clémence, mais avec des plis quelque peu railleurs, vous charmait et vous intimidait en même temps. De sa main, par un geste qui lui était familier, il caressait sa barbe et ses moustaches noires. Cette main n'était pas précisément petite, mais nerveuse, souple, allongée, industrieuse, serrant bien, et avec tout cela, fine, aristocrate, élégante, et enfin, dans sa façon de regarder, de parler, de tourner la tête, dans ses gestes vifs, expressifs sans être heurtés, jusque dans l'attitude nonchalante qu'il avait prise quand Ascanio entra, la force se faisait sentir, le lion au repos n'en était pas moins un lion. Quant à Catherine et à l'apprenti qui dessinait, ils formaient entre eux le contraste le plus singulier, celui-ci sombre, taciturne, au fond étroit et déjà ridé, aux yeux à demi clos, aux lèvres serrées, celle-là, gaie comme un oiseau, épanouie comme une fleur, et dont les paupières laissaient toujours voir l'œil le plus malin, dont la bouche même montrait sans cesse les dents les plus blanches. L'apprenti, enfoncé dans son coin, lent et langoureux, semblait économiser ses mouvements. Catherine allait, tournait, virait, ne restant jamais une seconde en place, tant la vie débordait en elle, tant cette organisation, jeune et vivace, avait besoin de mouvement à défaut d'émotion. Aussi était-ce le lutin de la maison, une vraie alouette par la vivacité et par son petit cri vif et clair, menant enfin avec assez de prestesse, d'abandon et d'imprévoyance, cette vie dans laquelle elle entrait à peine, pour justifier parfaitement le surnom de Scozzone que le maître lui avait donné, ce qui en italien signifiait alors et signifie encore aujourd'hui quelque chose comme casse-cou. Du reste, pleine de gentillesse et de grâce, dans toute cette pétulance d'enfant, Scozzone était l'âme de l'atelier. Quand elle chantait, on faisait silence. Quand elle riait, on riait avec elle. Quand elle ordonnait, on obéissait, et cela sans maudire, son caprice ou sa fantaisie n'étant pas d'ailleurs ordinairement fort exigeant. Et puis elle était si franchement et si naïvement heureuse qu'elle répandait sa bonne humeur autour d'elle et qu'on se sentait joyeux de la voir joyeuse. Pour son histoire, c'est une vieille histoire sur laquelle nous reviendrons peut-être. Orpheline et sortie du peuple, on avait abandonné son enfance à l'aventure, mais Dieu la protégea. Destinée à être un plaisir pour tous, elle rencontra un homme pour qui elle devint un bonheur. Ces nouveaux personnages posés, reprenons notre récit où nous l'avons laissé. « Ah ça, d'où arrives-tu, coureur ?» dit le maître à Ascanio. « D'où j'arrive ? J'arrive de courir pour vous, maître. »« Depuis le matin ? Depuis le matin ? Dis plutôt que tu te seras mis en quête de quelque aventure. »« Quelle aventure voulez-vous que je poursuive, maître ?» murmura Ascanio. « Que sais-je, moi ?
bien quand cela serait, voyez le grand mal, dit Scotzone, et d'ailleurs il est assez joli garçon, s'il ne court pas après les aventures pour que les aventures courent après lui.
Scotzone, interrompit le maître en fronçant le sourcil.
Allons, allons, n'allez pas être jaloux de celui-ci encore, pauvre cher enfant. Et elle releva le menton d'Ascanio avec la main. Eh bien, il ne manquerait plus que cela. Mais Jésus, comme vous êtes pâle, est-ce que vous n'auriez pas soupé, monsieur le vagabond?
Tiens non, s'écria Ascanio, je l'ai oublié.
Oh, alors je me range à l'avis du maître. Il a oublié qu'il n'avait pas soupé. Décidément, il est amoureux.
Roberta, Roberta, vite, vite, à souper, à Messire Ascanio.
La servante apporta d'excellents reliefs sur lesquels se précipita notre jeune homme, lequel, après ses stations en plein air, avait bien le droit d'avoir faim. Scotzone et le maître le regardaient en souriant, l'une avec une affection fraternelle, l'autre avec cette tendresse de père. Quant au travailleur du coin, il avait levé la tête au moment où Ascanio était entré, mais aussitôt que Scotzone avait replacé devant lui la lampe qu'elle avait prise pour aller ouvrir la porte, il avait de nouveau abaissé la tête sur son ouvrage.
« Je vous disais donc, maître, que c'était pour vous que j'avais couru toute la journée, » reprit Ascanio. S'apercevant de l'attention maligne que lui accordaient le maître et Scotzone et désirant mener la conversation sur un autre chapitre que celui des amours.
« Et comment as-tu couru pour moi toute la journée? Voyons. »«
Oui, n'avez-vous pas dit hier que le jour était mauvais ici et qu'il vous fallait un autre atelier ?»«
Sans doute. Eh bien, je vous en ai trouvé un, moi. »
« Entends-tu, Pagolo ?» dit le maître en se retournant vers le travailleur.
« Plaît-il, maître ?» fit celui-ci en relevant une seconde fois la tête.
« Allons, quitte donc un peu ton dessin et viens écouter cela. Il a trouvé un atelier, entends-tu »
« Pardon, maître, mais j'entendrai très bien d'ici ce que dira mon ami Ascanio. Je voudrais terminer cette étude. Il me semble que ce n'est pas un mal, quand on a religieusement accompli le dimanche ses devoirs de chrétien, d'occuper ses loisirs à quelque profitable exercice. Travailler, c'est prier. »
« Pagolo, mon ami, dit le maître en secouant la tête et d'un ton plus triste que fâché, vous feriez mieux, croyez-moi, de travailler plus assidûment et plus courageusement dans la semaine et de vous divertir comme un bon compagnon le dimanche au lieu de fainéanter les jours ordinaires et de vous distinguer hypocritement des autres en feignant tant d'ardeur les jours de fête. Mais vous êtes le maître, agissez comme bon vous semble. »
« Et toi, Ascanio, mon enfant, continua-t-il, avec dans la voix quelque chose où il y avait un mélange infini de douceur et de tendresse, tu dis donc ?»«
Je dis que je vous ai trouvé un atelier magnifique. »«
Lequel ?»«
Connaissez-vous l'hôtel de Nel ?»«
À merveille, pour avoir passé devant, c'est-à-dire car je n'y suis jamais entré. »«
Mais sur l'apparence, vous plaît-il ?»
Je le crois, pardieu, mais bien,
mais quoi?
Mais n'est-il donc occupé par personne?
Si fait, par monsieur le prévôt de Paris, messire Robert d'Estourville, lequel s'en est emparé sans y avoir aucun droit. D'ailleurs, pour mettre votre conscience en repos, il me semble que nous pourrions parfaitement lui laisser le petit Nel où habite quelqu'un de sa famille, je crois, et nous contenter, nous, du grand Nel avec ses courses et préaux, et ses jeux de boules et son jeu de paume.
Il y a un jeu de paume.
Oh, plus beau que celui de Santa Croce à Florence.
Ah, perbacco, c'est mon jeu favori, tu le sais, Ascanio.
Oui, et puis, maître, outre cela, un emplacement superbe, de l'air partout, et quel air, l'air de la campagne, ce n'est pas comme dans cet affreux coin où nous moisissons et où le soleil nous oublie. Là, le pré au clair d'un côté, la Seine de l'autre, et le roi, votre grand roi, à deux pas dans son Louvre.
Mais à qui est ce diable d'hôtel?
À qui, pardieu, au roi?
Au roi?
Répète cette parole, mon enfant, l'hôtel de Nel est au roi?
En personne!
Maintenant, reste à savoir s'il consentira à vous donner un logement si magnifique.
Qui, le roi? Comment s'appelle-t-il, Ascanio? Mais François Ier que je pense. Ce qui veut dire que dans 8 jours, l'hôtel de Nesle sera ma propriété. Mais le prévôt de Paris se fâchera peut-être. Que m'importe. Et s'il ne veut pas lâcher ce qu'il tient, s'il ne veut pas... Comment m'appelle-t-on, Ascanio ? On vous appelle Benvenuto Cellini, maître. Ce qui veut dire que s'il ne veut pas faire les choses de bonne volonté, ce digne prévôt, eh bien, on les lui fera faire de force. Ah, sur ce, allons-nous coucher. Demain, nous reparlerons de tout cela, et comme il fera jour, nous verrons clair. Et sur l'invitation du maître, chacun se retira, à l'exception de Pagolo, qui resta encore quelque temps à travailler dans son coin. Mais aussitôt qu'il jugea que chacun était au lit, l'apprenti se leva, regarda autour de lui, s'approcha de la table, se versa un grand verre de vin qu'il avala tout d'un trait, et s'en alla se coucher à son